enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous étions avec les jeunes de l'église et quelques jeunes qui venaient d'autres églises. On était 90 pour un week-end de jeunes et je dois vous dire que ça c'était vraiment extraordinaire. J'ai passé un temps merveilleux avec les jeunes et les jeunes qui sont là ce soir, je voudrais encore vous dire merci pour le temps que j'ai passé avec vous. Merci à tous. Je me suis fait beaucoup de bien. Le Seigneur nous a fait du bien. Il y a eu une visitation de l'Esprit. Des jeunes ont été touchés, d'autres personnes ont été touchées, et le thème qu'ils avaient choisi, c'est pas moi qui ai choisi le thème, c'est eux qui ont choisi le thème. Le thème choisi, c'était sois une lumière. J'ai trouvé ce thème très intéressant, et je voudrais simplement partager à nouveau ce thème avec vous de manière plus concise, puisque j'étais 3 jours avec eux. On avait le temps de discuter, de débattre sur ce thème-là ensemble. Mais je voudrais faire ce soir un résumé de ce thème avec vous et nous réjouir ensemble de ce que Dieu a préparé pour nous, un plan extraordinaire. Et je voudrais bien qu'on ouvre la Bible pour commencer. Est-ce que vous aimez la Bible? Amen. Alors ce soir, vous allez travailler avec moi. On va ouvrir notre Bible bien souvent. Je ne vais pas parler trop vite pour que le traducteur puisse me suivre et qu'il ait le temps lui aussi de prendre les passages bibliques. J'aimerais simplement qu'on commence par ouvrir notre Bible dans le premier texte, donc dans Genèse, chapitre 1, verset 1. On va lire les 5 premiers versets. Où déjà on parle de la lumière. Genèse, chapitre 1, verset 1, il est écrit là, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. » La lumière a été créée par Dieu. C'est ce que nous dit l'Écriture. Longtemps avant la création de la flore, de la faune, avant la création du temps tel que nous la connaissons, avec le soleil et la lune, la lumière est apparue dès le premier jour. Il y a deux manières de penser la création. Il y a ceux qui pensent que la Terre a été créée en 7 périodes bien définies, à long terme, et ceux qui pensent que la Terre a été créée en 7 jours tel que nous la connaissons. Je ne vais pas débattre de cela ce soir. J'ai mon idée personnelle, c'est la mienne, mais ce n'est pas le thème de la soirée. En tout cas, nous voyons que la lumière est apparue dès le commencement. Dieu créa la lumière, lumière qui n'a rien à voir avec le soleil, je le répète. Le mot lumière apparaît 190 fois dans la Bible. On voit combien que ce mot est important. Peu de choses créées sont plus extraordinaires que la lumière. Elle est essentielle à la vie. Elle est importante pour la croissance des choses qui sont autour de nous et même pour la croissance de l'être humain. Elle est importante pour la nécessité, elle est nécessaire plutôt à l'existence, au confort et à la joie. D'ailleurs, les gens qui vivent sous des latitudes où pendant 6 mois il fait nuit, sont obligés de temps à autre d'aller se mettre sous des lumières spéciales pour pouvoir se remonter quelque peu le moral. Vous avez déjà entendu ça, hein? Les gens qui habitent au pôle Nord, dans l'Exem, dans le Grand Nord, il y a 6 mois de nuit, et ils passent des périodes très difficiles lorsque la nuit est là, des dépressions, etc. Et le meilleur remède qu'ils ont, c'est de se mettre à la lumière. La lumière est souvent associée à Dieu lui-même, notamment dans la déclaration absolue de la Bible qui dit que Dieu est lumière. Dans le premier livre de Jean, 1 Jean chapitre 1er, verset 5, nous lisons ce texte. 1 Jean chapitre 1er, verset 5. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Amen. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est nommé le Père des Lumières. Et on trouve cela dans Jacques, chapitre 1er, verset 17. Jacques 1, verset 17, pour tous ceux qui sont en train d'étudier à fond le livre de Jacques dans les cellules, vous avez entendu ce verset et lu ce verset. Tout don excellent, tout présent, parfait, vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, c'est-à-dire Dieu, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse. De même, Jésus-Christ est la lumière véritable. Là encore, c'est une affirmation biblique. Jean, chapitre 8, verset 12. Il nous est écrit là, dans l'évangile de Jean, donc, chapitre 8, verset 12. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Celui qui me suit, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière produit la vie. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ produit la vie en nous. Jean chapitre 12, un peu plus loin donc, 4 chapitres plus loin, verset 46, une affirmation de Jésus. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Là encore, c'est une affirmation de Jésus qui dit clairement qu'il est la lumière du monde. Ensuite, la parole de Dieu est également comparée à une lumière qui, avec sa puissance d'éclairage, communique aux hommes les commandements et les jugements de Dieu. Dans le psaume 119, verset 105, un verset que beaucoup de gens connaissent par cœur, « Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon sentier. » Amen. Proverbe 6, verset 23, un texte ressemblant. Car les préceptes, c'est-à-dire les commandements de Dieu, sont une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction, le chemin de la vie. Dieu, en Jésus-Christ, est lumière. La parole communique également la direction de Dieu. Et ça, nous pouvons le trouver dans Ésaïe, chapitre 58, verset 10, où il est écrit là, « Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasis l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. » En clair, Dieu nous enseigne à faire du bien autour de nous, pas seulement en parole, mais également en acte. Dieu attend de nous que nous mettions en application ses commandements, ses préceptes. La lumière nous rend prospère, la lumière de la parole de Dieu nous rend prospère et remplie de joie. Encore dans le livre d'Ésaïe, toujours le même chapitre, chapitre 58, mais juste deux versets avant. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et tu te rétabliras bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. » Enfin, la lumière, et j'arrêterai là pour tout ce qui est biblique au niveau de la lumière. Enfin, la lumière est une image des chrétiens devenus fils de lumière. En acceptant Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes devenus des fils de lumière. En tout cas, c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous soyons des lumières. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Il est dit ici clairement, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous C'est toi, c'est moi, mon frère, ma sœur, qui sommes appelés la lumière du monde. C'est Jésus qui nous dit cela. Éphésiens chapitre 5, verset 8, il nous est écrit ici, Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. » Vivez comme des enfants de lumière. La lumière, mes amis, elle attire les gens, n'est-ce pas? On est attiré par la lumière plus que par les ténèbres. En tout cas, je l'espère. Lorsqu'on est dans un endroit ténébreux, lorsqu'on ne voit rien, la première chose que l'on cherche, c'est la lumière. Et enfin, quand on voit un petit filet de lumière, moi ça m'arrive quelquefois de me lever la nuit, eh bien, je cherche à tâtons mon chemin et je suis content lorsque je vois un rayon de lumière, jusqu'à l'interrupteur en tout cas. Et quand la lumière vient, eh bien, je peux aller d'un pas rassuré. Éphésiens 5, 8. Et également dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, il nous est écrit là, « Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. » Alors je ne vais pas prendre les 190 passages qui nous parlent de la lumière ce soir. Ce serait bien trop long. Mais je voudrais m'arrêter et développer quelque chose de très intéressant qui concerne notre pays. D'abord, avant tout, Jésus nous a donné un ordre, un commandement qui nous intéresse tous. Commandement que l'on trouve dans Actes chapitre 13, verset 47. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Actes chapitre 13, verset 47. J'entends les pages des Bibles tourner. C'est un doux bruit que l'on entend du haut de l'estrade. Actes 13, verset 47, il est écrit là, « Car le Seigneur nous a donné cet ordre. » J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai fait de toi. Il parle là aux disciples. Nous sommes appelés disciples de Christ si du moins nous l'avons accepté comme sauveur et roi. Cet ordre nous est donné à nous personnellement. Car le Seigneur nous a donné cet ordre. J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut juste aux extrémités de la terre. Et c'est pour cela que nous voulons travailler avec ardeur partout où Dieu nous envoie, partout où il ouvre des portes. Nous ne voulons pas rechigner sur le travail. Nous voulons, eh bien, obéir à ce que Dieu veut, sans négliger nos arrières. Nous voulons faire vraiment la volonté du Seigneur. Il nous demande, c'est un ordre, nous devons être des lumières. Nous devons être des lumières. La Bible nous parle d'un autre personnage qui était rempli de lumière. Il s'agit de Satan, déguisé en ange de lumière. N'oublions pas que le nom de Satan était Lucifer. Lucifer veut dire astre brillant. Astre brillant, dans le livre des Corinthiens, deuxième livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il est écrit là, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. S'il se déguise en ange de lumière, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour chercher à détruire qui il pourra détruire. » Satan, la Bible nous l'enseigne, est le destructeur, le voleur, le menteur. Son seul but, c'est de tuer. Tuer pas seulement physiquement, il le fait physiquement. Pas seulement physiquement, mais surtout ce qui l'intéresse, c'est tuer spirituellement. Il veut absolument nous éloigner de Dieu. Appelé Lucifer ou astre brillant, dans Ésaïe 14, verset 12. Jésus nous invite tous à avoir beaucoup de discernement afin de pouvoir démasquer et éviter les pièges du diable, le malin. Nous n'avons pas le droit de minimiser la puissance du malin. Il a une longue carrière devant lui et il sait très bien ce qu'il fait. Dans quel temps sommes-nous aujourd'hui? Le cas de la France est très intéressant. Pendant que je préparais, déjà pendant mon voyage en Israël, je réfléchissais à la demande des jeunes, à ce thème « Sois une lumière ». Et j'ai découvert des choses très intéressantes concernant notre pays de France. Chose que je voudrais développer ce soir, en tout cas quelques points succinctement avec vous. Pour que nous comprenions bien comment que Satan fonctionne et combien ce que dit Dieu est important et combien nous devons faire très attention à ce qui se passe autour de nous. Si Dieu nous demande, si Jésus nous demande d'avoir du discernement, ce n'est pas pour rien. Et j'ai trouvé très intéressant ce que je vais vous partager ce soir. La France est un pays qui a été visité par l'Esprit de Dieu. Samuel vous en a parlé, je crois, j'étais pas là, mais au XVIIe siècle, fin du XVIe et une grande partie du XVIIe siècle, un vent de l'Esprit a soufflé sur notre pays de France et beaucoup de gens ont été touchés par la grâce de Dieu, essentiellement dans les Cévennes et dans une grande partie du sud de la France. Et très vite, bien, les armées du roi Louis XIV ont essayé d'arrêter ce réveil. Des enfants même prophétisaient avec une précision incroyable. Des enfants qui ne savaient pas parler et qui ne parlaient surtout pas le français. À l'époque, ils parlaient l'occitan dans le sud de la France. Eh bien, avaient des prophéties en français. Tout se réalisait. Il se passait des choses extraordinaires. Il y avait un réveil merveilleux. Les gens se convertissaient par centaines et par milliers. Et on a essayé d'étouffer, d'arrêter cette visitation de Dieu. Et on a envoyé les soldats du roi, les dragons. C'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est ce qu'on a appelé les dragonnades. Louis XIV a envoyé 25 000 hommes pour essayer d'anéantir une petite armée de camisards de moins de 5 000 hommes. Résultat, ils n'y sont pas arrivés. Parce que Dieu combattait avec eux. Satan n'ayant pas pu arrêter ce mouvement par la force, va trouver une ruse tout autre que nous subissons encore aujourd'hui. Et je cherchais donc des choses sur la lumière et voilà ce que j'ai trouvé. Au XVIIIe siècle, notre pays a commencé à être traversé par un nouveau courant de pensée. Et aujourd'hui, nous en subissons directement les conséquences. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la pensée des Lumières. Alors, ceux qui ont fait de la philo, vous avez entendu parler de cela. Mais moi, j'ai pas fait de philo. Et ça a été pour moi une grande découverte. La pensée des Lumières, qu'on a appelée plus tard le siècle des Lumières. Ceux qui, donc, ont fait de la philo en classe, savent de quoi je vais parler. Pour les autres comme moi, un éclairage s'impose. C'était quoi les pensées des Lumières? Qu'est-ce que c'est que le siècle des Lumières? L'expression était déjà fréquemment employée par les écrivains de l'époque, convaincus qu'ils venaient d'émerger de siècles d'obscurité et d'ignorance, et ils étaient convaincus d'entrer dans un nouvel âge, illuminé non pas par Dieu, par la lumière de Dieu, mais illuminé par la raison. Par la raison humaine, il sortait donc de l'ignorance. En tout cas, il le croyait. La science et le respect de l'humanité. Les philosophes des Lumières veulent étudier le monde concret et tout examiner à la lumière de la raison. Et le maître mot de ces philosophes est l'entendement, qui désigne la faculté de connaissance de l'homme. À aucun moment on fait référence à Dieu. Simplement l'être humain, l'humanisme. Les Lumières impliquaient une attitude, une méthode de pensée. Selon Emmanuel Kant, le mot d'ordre du siècle devait être « ose savoir ». Il apparut le désir de réexaminer et de remettre en question toutes les idées et les valeurs reçues. Il fallait tout remettre en question, essentiellement, bien sûr, la foi, essentiellement, Dieu. Et c'est avec beaucoup de finesse que le diable à arrêter lentement les réveils qui y avaient lieu en France. C'est en France que les idées des Lumières s'épanouissent, donc dès le début du 18e siècle. Montesquieu commence à critiquer l'absolutisme. L'absolutisme, c'est de dire que Dieu et que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est une vérité absolue. Voltaire condamne le fanatisme et les pratiques judiciaires abusives. En tant que chrétiens convaincus, donc, nous étions considérés comme des fanatiques. Vous me direz qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, hein ? Oser affirmer que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, fait de vous tout de suite un fanatique. La plupart des philosophes sont déistes, c'est-à-dire qu'ils croient en l'existence d'un Dieu, mais en dehors de toute religion, et critiquent la superstition et l'intolérance religieuse. Dans la seconde partie du siècle, Jean-Jacques Rousseau renouvelle la pensée des Lumières et il imagine une cité idéale. Voilà, j'ai pris juste un extrait des confessions de Jean-Jacques Rousseau de son livre premier, écrit entre 1712 et 1728. Juste quelques phrases, deux phrases. « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi, moi seul. Je sens mon cœur, je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Et si je ne vaux pas mieux, au moins, je suis autre. » Juste un extrait. Cela nous montre combien ces hommes qui, par des simples pensées, sont arrivés peu à peu à bouleverser beaucoup de choses dans notre pays de France. Quelques faits marquants résultant des Lumières, du siècle des Lumières. Les idées des Lumières ont progressivement pénétré toutes les couches de la société. Tout doucement, le rationalisme, c'est-à-dire tout ce qui est rationnel, la foi donc est quelque chose d'irrationnel, on la met de côté, on l'enlève. Le rationalisme et le progrès, l'aspiration à plus de liberté et d'égalité, se répand partout, y compris dans l'aristocratie. Le siècle des Lumières a fait aboutir la Révolution française en 1789. Tous les historiens sont d'accord pour dire que c'est le siècle des Lumières qui a apporté la Révolution française. Les Lumières léguèrent un héritage durable au XIXe et au XXe siècle. Cet héritage marqua d'abord, premièrement, le déclin de l'Église. Le déclin de l'Église. Ensuite, au XIXe siècle, il y a la naissance de la devise bien connue aujourd'hui chez nous, « Liberté, égalité, fraternité ». On peut faire une photographie de notre société aujourd'hui. On est loin de l'égalité, on est loin de la liberté et on est loin de la fraternité. Ce n'est pas une critique que je ne fais pas de politique, mais simplement soyons objectifs. Ensuite, on va prononcer la mort de Dieu. Rappelons que c'est à Hegel que revient la primeur d'avoir prononcé la mort de Dieu dans « Croyance et savoir ». Il y tient pour responsable les Lumières et plus particulièrement le philosophe Kant. Ensuite, il y a eu la naissance de la laïcité. Avec le siècle des Lumières apparaît également, quelque chose de très important, le libertinage. On a commencé à dire que le libertinage était des choses qui étaient quelque chose de bon. Une autre chose très importante qui arrive dans le XIXe siècle, le divorce des philosophes emprunts de l'esprit des Lumières, comme Montesquieu et Voltaire avant, se prononcent en faveur du divorce, estimant que le maintien d'époux en discorde dans le lien du mariage est peu favorable à la fécondité et contraire à la nature humaine. Les pensées des Lumières à la française se sont ensuite propagées dans tout le monde occidental, d'abord en Europe, puis aux États-Unis et dans tout le monde occidental. Plus loin, ça ne fait plus partie des siècles de lumière, mais pour moi, ce sont encore des conséquences, et nous vivons en plein dans ces conséquences. Il y a eu mai 1968, que beaucoup d'entre nous avons connu. J'étais jeune, mais j'ai connu mai 68. C'était une autre révolution française, même si on n'a pas, si on lui prête pas ce nom de révolution, c'en était une en réalité, qui a bouleversé énormément de choses. Le mot d'ordre de cette révolution, c'était « Il est interdit d'interdire ». Vous vous souvenez de ce slogan ? Il est interdit d'interdire. Il s'en suivit toute une série de changements importants dans notre société, de manière très discrète, très lente. Il y a eu d'abord le mouvement des femmes, le MLF. Vous vous souvenez du MLF, mesdames ? Vous en avez entendu parler ? Tout de suite, après cela, eh bien, on a libéralisé l'avortement, aujourd'hui remboursé par la Sécurité sociale. Ensuite, l'interdiction pour les maîtres d'école et les professeurs de corriger physiquement les enfants. Quand j'étais petit, avant mai 68, eh bien, quand je faisais l'âne, le maître n'hésitait pas à me mettre une bonne raclée, ou me taper sur les doigts, ou me tirer les oreilles, ou me mettre à genoux sur une règle, parce que je faisais le clown. Interdit. Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, la correction corporelle, même par les parents, est punissable par la loi. On a donné à nos enfants des numéros verts. Et si papa, maman donnent une raclée aux enfants, n'hésitez pas à appeler. Papa, maman pourraient alors se retrouver en prison. Ce sont des conséquences de tout ce que nous venons de voir ensemble et une dégradation morale qui arrive lentement, lentement, mais sûrement. Deux siècles, trois siècles, mais elle est là. Résultat, nous n'arrêtons pas d'en subir les conséquences et, à mon avis, si on ne revient pas en arrière, des temps extrêmement pénibles sont à notre porte. On voit ce qui se passe autour de nous. Je ne profite pas du moment pour parler de cela. C'est une photographie que tout le monde peut faire. Simple, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Que dit la Bible, par exemple, par rapport à la sanction des enfants ? Que dit la Bible ? Prenez avec moi le Proverbe 22, verset 15. J'ai pris une version français courant, elle est plus douce que la version second. La version second nous parle du bâton. Proverbe 22, chapitre 15. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Voilà ce que dit la Bible. Un autre proverbe, juste le chapitre plus loin. Proverbe 23, verset 13. 13 et 14. Là, c'est très clair. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. En le frappant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, dans sa parole. On a fait juste le contraire de ce que Dieu nous enseigne. Et aujourd'hui, tout le monde crie au malheur. Tout le monde crie au désastre. Mais tout simplement, on ne veut plus écouter la parole de Dieu. On a rejeté la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à nous pencher sur ses préceptes et ses commandements. Nous l'avons lu ensemble. Alors, le siècle des Lumières est-il bon ou mauvais ? Chacun se fait son opinion. Alors je ne dis pas qu'il y a eu des progrès sociaux grâce au siècle des Lumières. Mais là-dedans, je reconnais bien le diable qui, je le répète, se déguise en ange de lumière pour faire passer sa volonté de destruction, de malheur, de misère et de désastre sur le plan individuel, mais aussi sur le plan des nations. Son but est de détruire un maximum de personnes. Dieu nous demande dans sa parole d'avoir du discernement. Il nous demande de discerner les choses. Observons ce qui se passe autour de nous, réfléchissons et prenons les choses à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible. Et posons-nous des questions essentielles, posons les questions à Dieu. Seigneur, mais qu'est-ce que tu penses de cela ? Dans quel sens je dois aller? Dois-je accepter telle ou telle chose? Ce soir, juste avant de venir, une sœur me téléphone. Elle me dit, elle était outrée. Elle voyait le devoir de l'un de ses enfants, où le devoir consistait à faire tout un rapport sur les sorcières et sur les bienfaits des sorcières et des sorciers dans notre siècle aujourd'hui. Elle a refusé que son enfant fasse ce devoir. Elle a été immédiatement convoquée à l'école. Elle s'est fait sermonner. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que je dois maintenant dire à mon enfant de faire ce devoir? J'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, pour moi, je lui ai donné mon opinion. Et je lui ai dit, mais rappelle donc à ces professeurs que l'école est laïque en France. C'est pas nous qui avons voulu que l'école soit laïque, c'est eux. Alors qu'ils restent dans leur laïcité. Parce qu'en parlant des sorcières et des sorciers, on parle de spiritualité. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. Alors que la laïcité se veut rationnelle. On sort du rationnel pour entrer dans quelque chose qui est pas du tout rationnel, mais qui est spirituel. Sachons discerner les plans et les voies du diable qui sont autour de nous et qui veut détruire en masse les gens. Pour ma part, le siècle des Lumières, dans le siècle des Lumières, eh bien, je vois combien que le diable a réussi avec beaucoup de finesse à enlever tous les points de repère pour les gens. Au fur et à mesure que le temps passait, il a réussi à enlever toutes les bornes, tous les panneaux directionnels, tous les garde-fous qu'il y avait, et il a réussi à les enlever. Et si nous, en tant que chrétiens, nous n'apportons pas la lumière dans ce monde, mais qui va le faire? Qui va le faire? J'étais tellement heureux de voir ces jeunes comprendre parfaitement leur rôle dimanche. Et eux-mêmes faire des propositions pour devenir des vraies lumières là où ils sont placés, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail qu'ils rencontrent, ils n'ont pas peur de l'évangile. Et nous n'avons pas à avoir peur de l'évangile parce que Dieu est clair. C'est lui la lumière du monde et lui seul, il n'y en a pas d'autre. Je crois que la France, qui a été visitée de manière merveilleuse par Dieu, a été touché de plein fouet par la ruse méchante du diable. Mais je crois aussi que notre pays va de nouveau être visité par Dieu. Je le crois parce que Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et je crois et je me prépare pour une visitation de l'Esprit de Dieu sans précédent. Nous avons besoin d'entrer pleinement dans ce que l'Esprit de Dieu veut de chacun de nous. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut pour nos vies, pour ma vie. J'ai besoin de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je n'ai pas le droit de me reposer sur mes lauriers. Et je dis toujours au Seigneur, Seigneur, si tu as l'impression que je me repose, mets-moi des coups de pied dans les fesses. Rachetez le temps, nous est-il écrit dans la parole de Dieu. Rachetez le temps. Sois une lumière. Jésus seul est la lumière du monde, la seule, l'unique. Il n'est pas les lumières, avec leur triste bilan que l'on vient de dresser ensemble. Il est la lumière, la seule, l'unique, la créatrice, celle qui apporte la vraie joie, la vraie paix, la vraie espérance, la vraie puissance. Sois une lumière. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Je le répète, on l'a lu tout à l'heure. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alors, comment être ou devenir une lumière? Premièrement, en restant attaché de très près à l'enseignement de la parole de Dieu, à l'enseignement de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. Restons attachés à ce que Jésus nous a enseigné. Ses commandements sont simples. Il nous a laissé un commandement ultime. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si nous appliquons ce seul commandement, les 10 commandements de Dieu sont inclus dans ce commandement que Jésus nous a donné. Si Dieu est réellement le premier dans ma vie, s'il est mon but, s'il est mon leitmotiv jour après jour, eh bien alors, je vais devenir une lumière. Sans parler, les gens vont voir, vont sentir, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais qu'est-ce que c'est cet esprit qui est sur lui? Qu'est-ce que c'est cette paix qui dégage? Quel est ce rayonnement qu'il y a en lui? Je le veux aussi, je le cherche. Deuxièmement, en nous détournant du péché sous toutes ses formes, ne vous laissez pas impressionner, je l'ai dit aux jeunes, ne vous laissez pas impressionner par le monde. Et je sais que pour les jeunes, il y a une pression terrible. Les tentations sont énormes, énormes dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on peut analyser tous les domaines. Le diable s'est immiscé absolument partout. Que ce soit dans le visuel, que ce soit dans l'auditif, dans tout, le diable s'est immiscé partout. La pression est énorme. On a banalisé la sexualité pour les adolescents de 12, 13, 14 ans. On leur donne des petits manuels pour leur expliquer simplement qu'il faut se protéger, mais que les relations sexuelles sont tout à fait normales à 12, 13 ans. À 18 ans, ils en ont fait le tour, ils ont goûté à tout, ils sont dégoûtés, ils n'ont plus d'espoir dans l'avenir. La pression est énorme, mais je sais que Dieu est en train de lever une armée chez les jeunes qui va nous surprendre. La qualité, je disais ce matin à mes frères en réunion, la qualité spirituelle que j'ai rencontrée chez ces jeunes ce week-end m'a surpris. Je vois une croissance spirituelle au milieu d'eux. Je les vois progresser, avancer, relever des défis, avoir des challenges devant eux. Et je crois que Dieu est en train de lever une armée puissante. Et je me réjouis de ce qui, du travail qui est fait dans les écoles du dimanche, chez les tout-petits, dans tout ce qui est fait pour les enfants. Je me réjouis parce que c'est un investissement énorme. Et nous l'avons entendu tout à l'heure avec Claude et ce témoignage de Lamine que je connais également personnellement. Troisièmement, en cherchant la puissance du Saint-Esprit qui nous fera vivre des expériences. Expériences qui vont renforcer notre foi. Nous avons besoin personnellement de faire des expériences. Vous avez besoin d'entendre des témoignages de gens guéris, de gens sauvés, de gens qui ont entendu ou vécu des choses merveilleuses. Mais vous-même, vous avez besoin de faire des expériences avec Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'entendre des expériences des autres. C'est chacun de nous qui devons faire des expériences quotidiennes avec notre Dieu. Demandons le Saint-Esprit de devenir vivant dans nos vies, de se manifester avec force et puissance. Quatrièmement, n'ayez pas peur de l'ennemi, quel qu'il soit. Si Christ est en nous, nous sommes d'office vainqueurs. Nous sommes d'office vainqueurs. Même s'il y a un prix à payer, souvent il y a un prix à payer, un prix lourd parfois. Ces camisards remplis de l'Esprit de Dieu, pourchassés par les dragons du roi, ont dû parfois se battre, et ça a coûté la vie de quelques-uns. Il y a un prix à payer, mais la victoire est au bout. La victoire est au bout. Et notre victoire suprême, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, et dire, Seigneur, voilà, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'ai servi avec toutes mes forces, avec toute mon âme, et aujourd'hui je suis heureux de te rencontrer. Soyons prêts à payer le prix. Cinquièmement, soyons des exemples pour tous ceux qui nous entourent. Être une lumière pour ceux qui nous entourent. Soyons des modèles, des exemples dans nos réactions, dans nos attitudes, dans tout ce que l'on peut faire. C'est pas tant ce que nous disons qui est important, c'est ce que nous sommes en réalité. Ce sont nos faits, nos gestes, nos réactions qui sont observées par les gens. Les gens nous observent et nous observons les gens, c'est réciproque. Et à force de les voir vivre, nous savons ce qu'ils valent. Et il y a ce que les gens disent et ce qu'ils sont en réalité. Faisons en sorte, en tant que chrétiens, que nos paroles soient accompagnées de nos actes et que nous ressemblions vraiment à des chrétiens. Enfin, soyons remplis d'amour les uns envers les autres. En premier envers nos frères et sœurs, en Christ. Soyons remplis d'amour les uns envers les autres. Si quelqu'un vous traite en ennemi, n'ayez pas peur, mais priez pour lui. Priez pour lui. Je vais m'arrêter là, le temps est passé, mais je vous invite simplement, en conclusion, à lire ce que l'apôtre Jean donne dans ses épîtres comme une description détaillée de la marche dans la lumière. Vous relirez chez vous les épîtres de Jean. Prenez votre temps, lisez-les bien, étudiez-les, et vous verrez dans ces épîtres, eh bien, que Jean nous enseigne, il nous donne cette description détaillée de la marche dans la lumière. Le croyant authentique pratique la justice, il mettra l'accent dessus, il aime son frère, sa sœur, et il refuse d'aimer le monde. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est de rechercher en Dieu le confort. Et ça n'existe pas. On ne vient pas par Dieu pour rechercher premièrement son propre confort. On ne vient pas au Seigneur pour améliorer notre quotidien, je le dis quelquefois. On ne s'approche pas de Dieu, on ne vient pas à l'église pour améliorer son quotidien. La Bible est claire, si on est sauvé, c'est pour servir. On est sauvé pour servir, pas pour se frotter le ventre et se gargariser et se faire du bien. On est sauvé pour servir. On est sauvé pour sauver d'autres avec nous. Voilà le but de Dieu dans notre salut. Donc, l'apôtre Jean va nous faire une description très claire sur comment être une lumière au travers de ces épîtres. Le chrétien refuse d'aimer le monde et il s'attache par la foi, par une foi indéfectible à Jésus-Christ, le roi des rois. Une foi indéfectible, rien ne peut l'ébranler, ni même la pression, ni même pour certains la torture. J'ai lu plusieurs livres du pasteur Wurmbrand qui était emprisonné en Roumanie à l'époque de Ceausescu. Il a passé plus de 20 ans dans les geôles de Ceausescu pour sa foi. Et chaque fois qu'il ressortait, il recommençait à servir Dieu. Et il a passé des moments terribles, des moments de torture. Et dans les moments les plus pénibles, il disait toujours dans ses livres, dans ses écrits, c'est dans les moments les plus durs que Dieu était le plus près de moi, que je sentais Dieu. Au point où, quand les choses sont allées beaucoup mieux dans son pays, il regrettait par moments la présence si proche de son Dieu au moment où les choses allaient mal pour lui. Paul, l'apôtre, nous a dit quelque chose de très important et très intéressant. Paul nous rappelle que pour lui, lorsqu'il était dans l'abondance ou dans la disette, sa foi, son espérance en Dieu restait toujours la même, stable, d'une stabilité parfaite. Sa joie était parfaite dans l'abondance comme dans la disette. Et Paul, vous connaissez la vie de Paul, vous avez vu, bien sûr, parfois il a mangé à la table des grands, il était invité chez des personnes importantes de l'époque, mais parfois aussi il a été frappé, laissé pour mort à deux reprises, on lui a jeté des pierres, on l'a enfermé, on l'a mis en prison, et il a très certainement fini décapité. Il disait que pour lui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, sa joie était parfaite en Jésus-Christ. Et en tant que vrai chrétien, rempli de lumière, notre joie est toujours parfaite. Quels que soient les passages difficiles que nous pouvons avoir dans notre vie, et on a des passages difficiles, je suis un humain comme vous, j'ai également des passages difficiles dans ma vie, parfois les choses ne sont pas simples, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il a fait des promesses pour ses enfants, et ses promesses se réalisent, parce qu'il n'est pas un menteur, il est Dieu, le Dieu qui tient à sa parole et qui accomplit sa parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour ta fidélité. Nous te bénissons. Te bénissons pour notre pays. Nous te bénissons parce que nous savons, je sais, que tu aimes foncièrement ce pays de France et que tu as un plan pour la France. Tu nous l'as déjà montré dans notre histoire. Et je sais, Seigneur, que tu vas te répéter à nouveau. Seigneur, malheureusement, l'ennemi de nos âmes, le diable, a su avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de malice, détourner le regard, les oreilles et la foi de beaucoup. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons relever le défi et te dire oui, Seigneur. Nous voulons entrer pleinement dans ta lumière et avancer. Ô Seigneur, aide-nous pour cela. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance parce que nous savons combien toi tu es fidèle. Et tu viens au secours de notre infidélité et de nos péchés. Tu es celui, Seigneur, qui nous lave et qui nous purifie. Tu nous as fait cette grâce, en tout cas tu m'as fait cette grâce de me sauver, de me toucher alors que je ne méritais rien. Je ne mérite pas plus qu'un autre. Tu nous dis d'ailleurs clairement dans ta parole que nous sommes tous nés pécheurs. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Et tu m'as fait cette grâce et je voudrais te dire merci, Seigneur.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.